Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez peut-être, je travaille sur un projet de recherche consacré à l'histoire de la bande dessinée thaïlandaise et plus particulièrement au développement de la bande dessinée indépendante en Thaïlande depuis une quinzaine d'années. J'avais envie de vous parler de cette évolution, mais avant cela, je voudrais dresser un contexte historique et éditorial. Dans cette capsule, je vais donc revenir sur le développement de la bande dessinée thaïlandaise dans les années 50 jusqu'aux années 70. Alors, la bande dessinée en Thaïlande connaît un âge d'or durant les années 50 et 60 avec l'apparition de dizaines de magazines, généralement destinés aux enfants et aux adolescents. Ces revues sont fortement influencées par la production américaine. Il faut en effet noter la présence de plus en plus importante de GI en Thaïlande qui sert de base arrière lors de la guerre du Vietnam. L'intérêt pour les comics américains est cependant légèrement antérieur, puisqu'il commence dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. En effet, Samrit Shirativat, fils d'un émigrant chinois, va développer sur la proposition d'un ami l'importation de livres et de magazines étrangers type Life Magazine en Thaïlande. Le succès est tel qu'il ouvre avec son père le magasin Central Trading, consacré d'abord à la vente de livres et de magazines importés, puis de divers autres produits étrangers. Pour ceux et celles qui connaissent un peu la Thaïlande, c'est le point de départ de la chaîne de centres commerciaux du groupe Central avec les Central Plaza, les Central World et autres Central Festival. Selon le collectionneur thaïlandais Saraoch Kupachaka, c'est dans les premiers centres commerciaux de ce groupe que l'on pouvait se procurer un large choix de comics allant du super-héros Flash de DC Comics au Spirit de Will Eisner et plus tard au magazine Eerie, Creepy et Vampirella de Warren Publishing. En 1957, le dessinateur Port Blankley s'empare du Captain Marvel Jr. d'Ed Aron et Mac Raboy pour lui donner une version thaïlandaise. Il se nommera Azawin Saifa et adaptera les costumes thaïlandais et des éléments fantastiques et magiques pour le lectorat local. Simultanément, Adirek Ariomantri crée le personnage Nulek Kung Krong, en fait, qui sont deux personnages, et il s'agit d'une version surprenante de Mickey et Goofy puisqu'il leur donne une apparence entièrement humaine. Le succès de la série donnera lieu à de nombreuses déclinaisons par d'autres auteurs. On retrouvera aussi des westerns ou des récits d'aventure assez proches dans leur facture de ce qui est publié dans le journal de Tintin à l'époque. Il y a en effet probablement une forte influence des récits franco-belges en Thaïlande à l'époque, puisque une revue thaïlandaise, la revue catholique Wirantam, va proposer de 1956 à 1974 la traduction de nombreux récits du journal de Tintin, où l'on retrouvera les Chic-Bils de Tibet, Pomme et Teddy de François Crenals, en passant par les Michel Vaillant de Jean Graton, les Tunga d'Edouard Haydance et les Aventures de Tintin. La revue Wirantam va publier également les Bugdani de Charlier et Hubinon qui paraissaient dans le journal de Spirou, les Flash Gordon d'Alex Raymond ou des auteurs italiens tels que Nevio Zecara. On se retrouve donc avec un choix particulièrement intéressant en Thaïlande à l'époque entre de nombreuses revues et de nombreux comics américains et d'un autre côté une large sélection de récits franco-belges. C'est également la période où M. Vejakorn, l'un des plus importants illustrateurs thaïlandais et Prayun Chayawongse, le dessinateur le plus influent de l'époque, vont produire certains de leurs plus grands chefs-d'œuvre. Tous deux adaptent principalement des livres du canon littéraire thaïlandais et de célèbres contes populaires locaux, mais avec deux approches différentes. M. Vejakorn, qui a été formé par un peintre italien néoclassique dans les années 20, va travailler avec un style réaliste. Alors ce style m'évoque parfois le travail du dessinateur belge Jigé sur les albums Baden-Powell, Don Bosco ou encore Emmanuel. Prayun Chayawongse, de son côté, est plutôt influencé par les films d'animation de Walt Disney ou des comic strips comme Popeye, et il va adapter les mêmes récits Kem Vejakorn, à savoir les œuvres du canon littéraire thaïlandais ou des contes populaires, mais dans une veine semi-réaliste et satirique. Alors Prayun adapte ses classiques thaïlandais, qui se déroulent généralement durant le royaume d'Ayutthaya entre le 14e et le 18e siècle, mais avec pour objectif de commenter l'actualité, de mettre en lumière la précarité dont souffre une grande partie de la population thaïlandaise à l'époque, de révéler la fracture sociale entre l'élite de Bangkok et les habitants des provinces rurales, mais aussi lancer quelques critiques acerbes à l'encontre d'une succession de régimes autoritaires. Alors on peut faire une comparaison ici avec le Kamuiden de Sanpei Shirato, qui, lancé en 1964 dans la revue Garo, va proposer également une critique sociale dans un Japon médiéval, mais en utilisant un registre plus dramatique. L'approche humaniste et souvent écologiste de Prayun peuvent aussi se rapprocher de celle d'Osamu Tezuka et de son roi Léo, qui sera traduit en Thaïlande dès 1968. C'est aussi en 1968 que Prayun subira les premières pressions du régime dictatorial du Field Marshal Thanom Kittikachorn, l'obligeant à se montrer plus prudent dans ses critiques et finalement à opter pour d'autres types de récits, par exemple des récits consacrés à la célébration de la nature. Alors en 1973, alors que la contestation se fait plus vive à l'encontre du régime dictatorial et que le crash d'un hélicoptère militaire dans la réserve naturelle de Tuang Yai met en lumière des chasses illégales d'animaux par des hauts gradés et quelques célébrités, des étudiants vont publier un livre intitulé Secrets of Tuang Yai pour dénoncer le braconnage qui a lieu dans la région. Composé de nombreux textes, mais aussi de dessins satiriques, dont une illustration de Prayun Chenyawangse, l'ouvrage va connaître un succès impressionnant, se vendant à près de 200 000 exemplaires en 2 semaines. Ce livre s'inscrit dans un mouvement de contestation plus large, pro-démocratique et s'opposant entre autres à la présence militaire américaine et aux investissements japonais massifs. Ces contestations vont déboucher sur d'importantes manifestations et finalement, au jour de grande tristesse, le 14 octobre 1973, jour durant lequel la police et l'armée ouvrent le feu et tuent au moins 70 manifestants, mais d'autres sources évoquent plusieurs centaines de morts. Alors l'événement va mener à la dissolution du régime militaire et à l'exil du Field Marshal Thanom Kittikachorn. Cette même année va également être celle de la naissance de la revue de strip humoristique Kaiwaro, à destination d'un large public, et qui reste à ce jour la revue de bande dessinée la plus vendue en Thaïlande. En 1976, le même éditeur, Ban Lusarn Publishing, va lancer la revue Ma Hasanuk, toujours humoristique, mais où des récits plus longs font leur entrée. Le 6 octobre de la même année aura également lieu le massacre de l'université Thammasat, l'un des événements les plus sombres et les plus traumatiques de l'histoire récente thaïlandaise. Ce massacre est lié au retour en Thaïlande de l'ancien dictateur Thanom Kittikachorn, retour souhaité par les militaires afin qu'il serve de rempart à l'extension communiste dans les pays voisins. Ce retour va mener à de nouvelles protestations estudiantines à l'université Thammasat après une série d'incidents. Incluant la pendaison de 2 étudiants et une accusation de crime de lèse-majesté, l'armée, la police et des groupes paramilitaires de droite encerclent l'université le 6 octobre 1976 et ouvrent le feu, causant la mort d'au moins 46 personnes. D'autres sources parlent de plus d'une centaine de victimes. La sauvagerie du massacre marquera profondément la société thaïlandaise. Et il n'est peut-être pas inintéressant de signaler ici que la bande dessinée d'horreur thaïlandaise, les fameux Khartoum Lem Labat, imprimée en masse sur du papier de mauvaise qualité et vendue à 1 puis 5 baht, se développeront en 1977. Au travers de récits généralement gore, ces morts-vivants, esprits et fantômes vont envahir la bande dessinée thaïlandaise un an après le massacre de l'université de Thammasat. Et si Art Spiegelman voit dans les titres de science-fiction et d'horreur DC Comics une tentative inconsciente d'assimiler les atrocités d'Auschwitz et d'Hiroshima durant l'après-guerre, on peut se demander si les cartoons Lem Labat n'ont pas une vocation similaire, mais pour répondre à la barbarie du 6 octobre 1976. Tout comme il serait intéressant de comprendre si la création des plus importantes revues de bande dessinée humoristique thaïlandaise, en 1973 et en 1976, sont liées à un besoin d'évasion dans ces périodes de tension extrême. Il me faudra encore entreprendre de nombreuses recherches pour pouvoir apporter quelques lumières sur le sujet. Quoi qu'il en soit, à ce stade de mon exploration de la bande dessinée thaïlandaise, je n'ai trouvé aucune trace d'une bande dessinée ou d'un magazine underground ou alternatif en Thaïlande dans les années 60 et 70, mais la production est tellement importante à l'époque qu'il est difficile à ce stade d'en faire le tour. Par contre, le style réaliste d'M. Vejakorn et les récits engagés de Prayun Chenyawangse sembleront fusionner à la fin des années 70 sous la plume de Triam Chachumporn, un auteur qui marquera son temps par ses récits sociaux sans concession, qui évoque par certains aspects les Gekiga de Yoshihiro Tatsumi. Mais j'en parlerai plus longuement dans la prochaine capsule, plus spécifiquement consacrée à l'évolution de la bande dessinée thaïlandaise indépendante des années 1990 à nos jours. Sawadee krap, les amis!